Ayo, this is the narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
This is Afua Cooper, and you're listening to CKUT 90.3 FM.
Hello to you all, and welcome to Viewpoints. Boris Chassagne here with you for the next half hour. On today's show, communicating with the unhoused during extreme weather, what lessons were learned from the January 8th snowstorm in downtown Eastside, Vancouver?
Human beings out looking for other human beings and making sure that they get to a place where they're not going to die. That's really what it comes down to. It's very just, it's like paperwork, email, text messages. Mm-hmm. There is absolutely no way that a digital communication plan is getting to people that are unhoused and homeless.
Remembering the late Robbie Robertson, Jace Martin talks about the Lifetime Achievement Award that almost never happened.
Finally, after 10 years of this going on and going back and forth, Sebastian gets back to me, his son, and very, very bluntly said, Jace, we love you. We appreciate you. He goes, I have to tell you that my dad, Robbie, won't come back to Six Nations again until this gets cleared up. And I was like, okay, what's the problem? Now I know there's an obstacle, right?
Global warming is not happening and is based on junk science? Well, yes, according to Julian Fell, alternate director for the regional district of Nanaimo's electoral area F.
At the risk of offending every true climate believer, I think the whole climate thing is a bit of a fiasco.
Welcome to Viewpoints Local News Nationwide.
You are on the air with Viewpoints. Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
So thanks for keeping us company. It would not be the same without you. Our first stop will be in Nanaimo, British Columbia, for some fun facts about climate change. Julian Fell, who's alternate director for the regional district of Nanaimo's electoral area F, recently claimed, and with no apparent shame, that global warming was not happening and is based on what he calls junk science. And he was not talking to himself. In fact, he made that statement on February 13 while the Nanaimo board was debating about developing a regional strategy for zero net buildings and localized energy generation. Julian Fell went even further by saying, and I quote, I think the whole climate thing is a bit of a fiasco. We've been facing this global warming thing now for 45 years. Dr. Simon Doner, a climate scientist at UBC, takes exception, describing Fell's statement as an old kind of anti-science trope that he's surprised to hear these days. Journalist Mick Sweetman, based in Nanaimo, British Columbia, has that story for us.
The regional district of Nanaimo is moving forward with developing a regional strategy for net zero buildings and localized energy generation. Director Julian Fell of the RDN's electoral area F, representing Arrington, Coombs, and Hilliers, argued against developing the strategy.
At the risk of offending every true climate believer, I think the whole climate thing is a bit of a fiasco. We've been facing this global warming thing now for 45 years, and it's not happening. It's based on a belief that CO2 affects the climate by back radiation. That's the backbone of the whole process. That can be debunked very, very quickly. I could go out here in 2 minutes, show you that back radiation isn't warming anything. I measured the back radiation in my yard. I have a radiation meter, and it showed that the radiation has a temperature of minus 32 degrees. That doesn't warm ground that is 35 degrees hotter. CO2, the emission frequency of CO2, has a heat content of minus 80 degrees Celsius. That doesn't work. There's some really funny stuff on the internet that's constantly repeated that is just, I can only call it junk science. There's no other reason for it.
Jessica Stanley, director for Area A, responded to Fell's comments.
Let me just share some of the scientific facts that are just actually very recent. So global sea temperature is higher than ever recorded over the past few days. We've hit a full year of temperatures that were 1.5 degrees Celsius above where we said we weren't supposed to be. Atmospheric carbon dioxide just dumped 4.
Director Stanley, I don't want to go back into a back and forth. So if you have any questions about...
Well, I'm arguing why I'm in support of this. And I think that having the science is important. So if we're going to hear that climate change isn't real, then I think we should hear the evidence that says that, you know, clearly across the board, we've got multiple areas of, you know, impacts that I don't think we can or should be denying.
Simon Donner is a climate scientist and a professor at the University of British Columbia. I spoke with him over the phone.
I smiled when I got your email because what the regional director said is an old kind of anti-science trope that I'm surprised to even hear today. It's the sort of thing somebody would read online that goes against the basic principles of physics.
Donner says that FEL is failing to account for the different types of heat that contribute to climate change.
You can't make sense of the greenhouse effect just by taking the measurement of the temperature of different things, because there's more than one way in which energy is transmitted. It's not only based on the temperature of something influencing how much energy is radiated. It's also influenced on the movement of air and the heating of air, what we call in the science sensible and latent heat. His conclusion is based on an incomplete energy budget. It would be like trying to like balance your budget without accounting for everything that you're spending and all the money you're making.
Donner says that he has heard politicians making similar arguments before.
It's really old school cognitive dissonance, to use the term from psychology, is that, you know, when we don't want to take an action, we often, rather than arguing about the specifics of the action, we go back and argue against the reason you would do it. It's sort of like your parent saying, hey, could you take the garbage out? And then you saying, I don't think the garbage is even full.
Dr. Eric Krogh, an environmental science professor from Vancouver Island University, says carbon emissions are a key contributor to climate change.
The connection between greenhouse gases and global warming is that those gases absorb those outgoing heat waves and then they radiate it back in all directions. Some of those come back down to Earth. Some of those are destined for outer space. Some move horizontally in the atmosphere. So that back radiation is referring to, I believe that this individual is referring to, the amount of that IR that's coming back down to Earth as opposed to escaping out into outer space. That is a core component of the mechanism of increased temperatures, both in the troposphere as well as the Earth itself.
Donner says the RDN is right to look at developing strategies to reduce the emissions of new buildings.
Figuring out how we're going to make our buildings more efficient and to stop relying on natural gas and shifting to electricity for heating is not only, you know, the solution for reducing emissions in the region, they're also just good ideas anyway. Next time we get a big heat wave, if we've shifted to electricity for heating, guess what you also get when you install electric heating? You also get electric cooling.
Krogh says that local governments need to take action to help reduce emissions.
We have to stop ignoring climate change and start addressing it. The counter arguments are that these can be more expensive investments up front, but I can only imagine that they're orders of magnitude many times cheaper than dealing with the full cost of climate change if we continue to ignore it.
The RDN board voted to develop a strategy for net zero buildings and localized energy generation, with directors Fell, Ian Thorpe, and Leanne Wallace opposed. This is Mick Sweetman.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
From climate change to music, from BC to Ontario, when renowned and influential musician, songwriter, film composer, and actor Robbie Robertson was given his Lifetime Achievement Award from Six Nations in October of 2017, what most people didn't know was that there had been a problem that almost scuttled the plan. Six Nations songwriter, artist, manager, and performer Jace Martin wanted to honor the late Robertson for years, only to be told that Robbie would never return to Six Nations unless a problem was dealt with. Which one? Well, in an exclusive interview with David Moses in Oshawa, Ontario, Jace Martin shares this fascinating story for the first time about how Robbie Robertson's Lifetime Achievement Award almost never happened. This is part four of a series remembering Robertson's return to his roots in Six Nations. Here is part of David's conversation with Jace Martin about his involvement with bringing Robbie Robertson to Six Nations for his Lifetime Achievement Award back in 2017.
At what stage did you get involved, and how did you get involved with that idea to bring Robbie back to give him a lifetime achievement?
Right.
Six Nations.
Well, it was, it had to grow into that idea, right? You know, usually this is a great life point, like for anybody listening, you just have to start. Mm-hmm. You have a dream, right? You just have to start, because it will always unfold into something bigger. Like, the vision will continue to expand as you meet your goals, as you get progress in it. And so that's what this story is so great. And I'm so glad that you asked me to do this, because ever since Robbie passed, he's one of my greatest mentors. We became good friends at the end. He was a big supporter of ours. He came on the Harvin J show for us for Bell TV, which is amazing. So we have that actual live video footage of us talking. Yeah. He was a great supporter of mine. And he was, even before he passed, he did the Harvin Jace thing. He was like, Jace, I'm coming back there. I'm coming back in your studio. Don't worry, I'm coming back. Great. And we never got a chance to do it, but it meant so much to me. But I'm going to tell you, it took 10 years. It took 10 years. Wow. Yeah. I started, you know, I was the artistic director for the Six Nations Music Festival, the concert for a cure that happened for 10 years.
Yeah.
And we bring people like Johnny Lang and like the Fabulous Thunderbirds, all these people. So we always had these big dreams and big visions. And we were so fortunate to be able to pull these big things off, you know. I mean, we had almost like 5,000 people at Chiefswood Park when Johnny Lang was here. And I couldn't not believe that, like, again, like, this is stuff that when I was younger, we were talking about when I was younger, what it takes in the music business, like, to have these, like, these big dreams. And I was always wondering why these, because there was these festivals, I had to get hired to go away. Like, why aren't there festivals here, right? That's the reason I brought that music festival here. And, like, and then one of my questions was, after that, was, like, why does Six Nations not celebrate Robbie Robertson, you know, like they should? That was always deep in my spirit as I was growing up. I said, like, he's like literally he's made it to the highest peaks of music, you know, the most celebrated, amazing artist in the history, wrote some of the most iconic, lasting songs in the world, you know, like, so it was always like, why don't we celebrate him more? Like, why don't we talk about him more? Why is nobody, you know what I mean? Like, we should be proud of it. There should be like a poster, the home of Robbie Robertson, and stuff like that.
Always
was in my heart, right? So naturally, when I'm doing the concert for Cure, the first concert I did, I reached out to him and his team, no response. Mm-hmm. Second year, reached out, no response. Third year, reached out, you know. Then I started to get a little bit of responses, like, you know, we're getting messages from you constantly. Mm-hmm. But they were being very diplomatic about it. They're saying, oh, he's not available, he's busy, blah, blah, blah. So this goes on for years and years and years. But I'm persistent, and when I want something, I believe I can make it happen. So then I started to change my thing. I just said, you know, like, we want Robbie to come, and we just want to celebrate him. He doesn't have to sing. We don't want anything from him. We just want him to show up so we can celebrate him and honor him the way Six Nations is supposed to. Mm-hmm. And I said, we'll pay for everything. Whatever, you tell me what it costs. Uh-huh. We'll pay for everything, every cost. And I said, we'll come up with a fee. He doesn't have to sing or nothing. You know what I mean? Like, so I started to scale down the vision of what I wanted when we brought him. I wanted to make it as easy and as possible on him, you know? And so I think that started to get into the management's mind, and I took it to Robbie. And I actually reached out to his son, Sebastian, too. Mm. Finally, after 10 years of this going on and going back and forth, Sebastian gets back to me, his son. And very, very bluntly said, Jace, we love you. We appreciate you, the work you're trying to do. And we get messages from you every year, you know, she said. But he goes, I have to tell you that my dad, Robbie, won't come back to Six Nations again until this gets cleared up. And I was like, okay, what's the problem? Now I know there's an obstacle, right?
Right, right.
And I'm a problem solver. So I was like, okay, there's an obstacle. What's the obstacle? He said, well, my dad is really wants his status back, his status card membership, because he lost it when his mom married off the reserve in 85. Yeah. So I didn't know this.
Yeah.
So you guys are hearing this like exclusively. Like, I never told this story, and like, I really have been thinking I need to share this story because Robbie is not here, but this is a like a legacy story for Six Nations. It's a part of who we are.
Sure.
So I'm so glad to be able to share this now. This is the first time I get to share this. But as soon as I heard that there was this obstacle, I was like, wow. So I asked Sebastian, I said, can I take this information and can I start the process on Robbie's behalf to make this happen? And I didn't even know what to do. I didn't know how to do it, but I knew the chief, Ava, at the time, Ava Hill, a great friend of mine, great supporter of mine. So Sebastian gave me his blessing. He said, on behalf of Robbie and our family, like, you're allowed to do it on our behalf. So whatever you need to do, like, you have our permission, right? So I was like, yes. So I got that that go ahead, you know, from Robbie and his family. So I went right to Ava. I set up a meeting with the chief. And you know how I get so excited. I'm like, whoa, we're so close. We can do this, you know. But there's still obstacles, right?
Yeah.
So I sit with Ava, and I know she was amazing. And I told her what had to happen. And I didn't really ask. I said, we have to do this. There's like an injustice that happened to Robbie.
Yeah.
And it's something that has affected him since. And not only him, but his kids now. So there's like this disconnect from Six Nations now. Yeah. And I said, we need to rectify this because it wasn't his fault. And it's hurting him, obviously, you know. Mm-hmm. Like, why would he even bring it up? Why would he even say
exactly,
it, you know?
Right.
So she understood the severity of it. She started to put me in touch with and support, like, the membership genealogy of tracking down his information to get his status card back to him, which was an unbelievable process. And it's so funny because people at membership, they were like jumping. You know, they don't really do that. You have to provide the information. Right. You have to bring in the birth certificates. You have to bring in the death certificates.
Right.
You have to prove where they were born and the doctors and all. Like, it was so crazy. But the people at membership and Ava, they were working so hard for this because I don't know what it was. There was just this blessing on it. Like, there was just this excitement and energy over, whoa, we're a part of something that's bigger than us, you know? It's not just a day-to-day typical status card thing, you know? Yeah. So we could all feel it.
Well, yes, we did pull that trick on you. Sorry about that. Want to know what happened next? The rest of this 30-minute interview can be found on frequencynews.ca. Listen to David Moses and Jace Martin go at it for 24 more minutes. It's part of a 4-part series where David reminisces with community members about the return of Robbie Robertson's to Six Nations in 1996. Listen to the previous 4 parts. In part 1, David Moses presents a 1996 interview with Robbie Robertson, done with Elaine Bombery on CKRZ Radio. That interview continues on in part 2, where Robbie Robertson says he thinks he's related to half the Six Nations reserve. And in part 3, local musician Derek Miller shares memories of jamming with the late Robbie Robertson. Thanks to David Moses for this great retrospective of that special moment in musical history.
You're listening to Viewpoints with Forrest Sasang.
Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
So spring is around the corner in Vancouver, and there have been many weather changes since the severe snowfall of January 8th, when the temperatures plummeted and a record-setting 27 centimeters of snow blanketed the city. Schools were even closed for 3 days. In the downtown east side during that record-setting snowfall, several of those unhoused were left out in the cold, unable to access shelters or warming centers. Though that extreme weather event has now passed, the community supporting the unhoused still talks about what went wrong and what needs to be done to ensure that the city's most vulnerable are better protected next time around. So, Vancouver-based journalist Bernadine Fox took a look at what the problems were during that dangerous weather event and talked to people who work with the unhoused to see what the city needs to do to take care of these vulnerable citizens when extreme weather happens again. Bernadine reached out to Amanda Burrows, who works at First United, an organization that has provided and advocated for services for the unhoused in the downtown east side for the last 140 years. This interview was conducted just a few days after the January 8th snowfall.
You know, we always know we have one or two really cold snaps a year. There's always a scramble trying to find extra shelter space, extra warming centers. There's a lack of resources, a lack of coordination, and a lack of communication. Feels like that's every year. But this year, there was that, and this only thing I could describe is this layer of apathy that just didn't seem like it mattered as much. And so it was up to, you know, grassroots groups, service providers, doing the outreach, you know, walking around the streets, making sure that people were warm enough. And this has been going on, it feels like, about 8 days, not just with the snow, but when it was minus 18.
There's always a percentage of people who don't make it into shelters or warming centers. What happens to them?
Shelters are often 100% at capacity, even when it isn't an extreme cold weather like it is now. And so that's an issue, too, with having quantity. And the warming center issue is a different one when it comes up, when the city does their extreme weather response, these warming centers. So there's a few in the downtown east side that were opened up for the last few days. But a lot of people don't know where they are or where, you know, where to go. So there's always this communication issue that we're struggling with down here. So even if you do open these places, the city coordinates with organizations to open them. Not many people know, often don't know where they are, but they only stay open for a few days. And when this extreme weather ends today or tomorrow, those places will be closed.
Amanda Burrell says that it's critical that the city have a preparedness plan, which is communicated clearly to the people being affected by an extreme weather event. The Pulse reached out to the city to find out what their plan consisted of. They did not agree to an interview, but sent an email outlining these points. They increased capacities at shelters and also opened additional warming centers that allowed pets, bikes, carts, and offered snacks and warm beverages. Alerts, they said, were sent out to service providers, outreach teams, TransLink, and other partners, including the BPD, who can, quote, tell people that there are places to come inside and get warm, end of quote. And they had information on their shelter and winter response strategy webpage. All of this information was disseminated via emails and a website. To try and track down exactly how unhoused people would be informed, the city directed us to Homelessness Services Association. Chloe Good, their project and program lead, explained that 527 points of contact get the alert, which they believe are then passed along to their networks and programs. But when asked who specifically was tasked with ensuring the unhoused are able to access this digital information, we were told that alerts included a poster to be posted onto windows. We went back to Amanda Burrows to ask her what her experience was on the ground. What type of communication stream do they use to let people know about the shelters that are available? How do they do that?
Yeah, so there's the 211 number. So you can call 211 and hear about capacity and where they are. And, you know, we do have to also, as service providers and organizers, you know, bear responsibility too in getting out communication. So, you know, there's no Wi-Fi in community either. So if there was some sort of, you know, tech response, we don't have the infrastructure to do that and mobilize that. It really is boots on the ground going around and having dialogue with people.
Downtown inside, that is not the case. It's not, it's always hard to find Wi-Fi, and B, not everybody has a phone or access to it. I was wondering whether or not there was some communication style that was being developed that would suit that to make sure that everybody knows about it. But from what I'm hearing from you, it really is people with boots on the street letting people know.
That's true. And if there is something being arranged right now, I'm not aware of it.
That was Amanda Burrows from First United Church. One of the people who also had boots on the ground that night was Sarah Blythe, executive director of the Overdose Prevention Society. She talked to us about what she saw on that cold winter night and the communications that she says didn't happen effectively.
I think it was a confusing situation where better communication with the actual people that are homeless. And they don't sometimes see the news. They don't even know that the winter cold weather is coming or what, how, you know, where to prepare. They have limited outreach.
I know that the Homelessness Services Association of BC sends out like 500 and some alerts. How do those alerts get to the unhoused so that they can use that information?
I do see emails that come to me that I can print out paperwork and put it up and hand it out at our overdose prevention sites.
Mm-hmm.
But again, things change. Some shelters are open on some nights. Some are open on other nights. It's a fairly confusing, just even for me, to look at and figure out, let alone handing it out and for homeless to sort of figure out what's going on night to night. Mainly it's just bodies, human beings out looking for other human beings and making sure that they get to a place where they're not going to die. That's really what it comes down to. It's very just, it's like paperwork, email, text messages, all of that isn't equal to human beings going on the front lines and looking for other human beings that are laying out there in the cold and making sure that they get somewhere safe. Mm-hmm. There is absolutely no way that a digital communication plan is getting to people that are unhoused and homeless, the ones that are in the downtown east side at least. Because a lot of people don't have internet. They don't have, they have phones sometimes when they have data.
Ken Sims put out a tweet that said, it was directed to the unhoused. It said, mm-hmm. "We care about you. These are the warming centers. Come in and get warm." But it's a tweet. It's online. Mm-hmm. What percentage of the population of the unhoused in the downtown east side would have...
No one saw that.
No one
saw that. I'm sure no one saw that.
So the city has an outreach team. Were they open that night, or what do they do?
I don't know who they are. I haven't seen them. I don't know what they're doing. I imagine some of them are coming out of Carnegie, but I don't see who they are. They haven't introduced themselves to me.
That was Sarah Blythe from the Overdose Prevention Society. The Pulse discussed these difficulties with City of Vancouver Councillor Cynthia Boyle. We described the shortcomings that Amanda Burrows and Sarah Blythe talked about and our own research when we contacted the city. Boyle said that the downtown east side should be a priority around free public Wi-Fi because, as she said, during the heat dome, unsurprisingly, we saw the same thing about these important health and safety issues. She also said that the city's outreach team are their boots on the ground. This spring, Councillor Boyle is planning to bring the topic of free Wi-Fi in the downtown east side up to City Council. We attempted several times to reach out to the city's outreach team in the downtown east side, and at the time this story is going to air, we have not received a response from them. What is clear is that the city developed a preparedness plan to provide services to the unhoused during the latest extreme weather event that was based on a form of communication the unhoused have little to no access. There will be further life-threatening events, including extreme cold or heat and medical emergencies, and the question remains if the city will modify their communication plan in the future or if the unhoused will continue to be left in the dark and out in the cold. This is Bernadine Fox reporting for frequencynews.ca with funding by the Local Journalism Initiative, a program of the Department of Canadian Heritage, and distributed by the Community Radio Fund of Canada.
And that's it for us at Viewpoints. Thanks to our journalists David Moses, Bernadine Fox, and Mick Sweetman, to our national editors Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. I'm Boris Chassaigne, your host and producer. Thanks for being with us again this week, and until the next, ciao.
LJI.
Calypsis Tour 2024. Live at Bell Center, Saturday, June 1st. Get tickets now at evenco.ca.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, nous aurons aujourd'hui le second reportage de Maxime Gauthier sur la violence au hockey. Cette semaine encore, les arbitres des ligues mineures partagent leur quotidien sur la glace et ce n'est pas rose.
Il y a un joueur qui m'a ramassé par en arrière, m'a tiré le chandail assez long pour tout déchirer mon chandail. Le spectateur descend en bas, il me donne une claque par la tête. Tu peux avoir des gens qui décident de t'attendre à l'extérieur.
La chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, sillonne la province pour rencontrer les travailleurs de la santé.
C'est notre modèle de soins primaires qui ne fonctionne plus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veut faire ce travail-là. Alors, on doit changer comment c'est fait et comment on paye pour ça. On a vu en Colombie-Britannique, ils ont fait beaucoup de changements au niveau de leur système de paiement pour les soins primaires. On doit vraiment valoriser le monde qui fait le travail.
Et Ottawa accorde une aide de 630 millions de dollars au gouvernement du Manitoba pour soutenir les efforts du premier ministre Wade Kinew en matière de santé.
Ça, c'est une annonce merveilleuse pour la province du Manitoba. Nous embaucherons bien plus de médecins, d'infirmières, tout partout dans le Manitoba. Alors, je suis très, très content d'être ici aujourd'hui.
Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X at Canada LJI.
Merci beaucoup d'être cette semaine encore avec nous. On lance l'émission dans les Maritimes où la chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick entame, dit-elle, officiellement sa campagne électorale, même si aucune date, sauf celle du 21 octobre, n'est pour l'heure dans les cartons pour le gouvernement conservateur de Blaine Higgs. Deux ministres ont récemment annoncé qu'ils ne seraient pas de la prochaine partie et plusieurs analystes estiment que des élections pourraient être déclenchées aussitôt qu'au printemps plutôt qu'en octobre. Alors, la chef du Parti libéral de la province se tient fin prête. Susan Holt, qui est aussi chef de l'opposition officielle et députée libérale de Bathurst-Est-Nipisiguit-Saint-Isidore, effectue une tournée du Nouveau-Brunswick pour rencontrer des travailleurs du secteur de la santé. La chef politique était mardi dernier de passage à Saint-Jean pour participer à plusieurs rencontres en l'espace de quelques heures dans des foyers de soins et à l'hôpital régional. Et en fin de journée, elle assistait à l'investiture du candidat dans Saint-Jean-Est, David Alston. Sébastien Caron l'a rencontré entre deux haltes et évoque avec elle ses positions sur ce qui doit être fait en matière de santé et d'éducation en français dans la province.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
C'est quoi le but de cette tournée un petit peu partout dans la province?
Ben, le but est d'être là pour écouter les expériences des professionnels de notre système de soins de santé parce qu'on sait qu'il y a plusieurs enjeux. Beaucoup de monde n'ont pas accès à des soins. Alors, on veut savoir vraiment qu'est-ce que c'est la réalité au terrain. Qu'est-ce que c'est les perspectives du monde qui fait ce travail à chaque jour?
Je sais que dans la journée, là, aujourd'hui, à Saint-Jean, vous allez rencontrer des personnels de santé dans des centres de soins pour les personnes âgées, à l'hôpital également en fin de journée. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres?
Ben, j'espère entendre des idées, de témoignages peut-être de la réalité et des opportunités, une clarté au niveau des enjeux, certainement avec le système de soins pour les aînés. On a beaucoup de difficultés à créer des espaces dans les foyers, à aider du monde à rester chez soi pour plus longtemps. Alors, je suis vraiment hâte d'entendre c'est quoi l'expérience du monde dans ce secteur-là.
Il y a quelques semaines, le gouvernement avait organisé une conférence de presse pour annoncer qu'ils allaient faire venir de plus en plus de personnel de l'étranger pour venir travailler dans les foyers de soins. Est-ce que c'est une bonne option ou est-ce qu'il vaut mieux travailler ici avec les gens d'ici?
Ben, je pense qu'on doit tout faire, honnêtement. On doit avoir la formation pour qu'on peut créer la main-d'œuvre ici avec les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises pour faire ce travail. Mais on a beaucoup de besoins et on ne peut pas les régler assez vite que seulement avec la formation. On a besoin que le monde vienne ici pour nous aider et aussi qu'on fait des investissements dans les gens de Nouveau-Brunswick pour qu'ils puissent travailler dans ce domaine-là.
Dans les dernières communications du premier ministre Blaine Higgs, il annonce que 10 000 Néo-Brunswickans ont téléchargé la nouvelle application mobile Ma Santé NB. Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Je pense que c'est une distraction, honnêtement. Il y a une application, oui, ça aide si vous cherchez des données, mais ça ne crée pas, ça n'améliore pas notre accès au système de soins de santé. Ça ne crée pas des espaces dans les foyers de soins. Ça ne nous donne pas de nouvelles médecins de famille ou infirmières praticiennes. Ça ne crée pas des cliniques. Alors, oui, moi, j'aime avoir des données sur mon téléphone et proche, mais ça n'augmente pas le monde et leur accès au système, alors.
Comment on fait pour améliorer l'accès au système pour ces gens-là?
Oui, on doit changer plusieurs choses. C'est notre modèle de soins primaires qui ne fonctionne plus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veut faire ce travail-là. Alors, on doit changer comment c'est fait et comment on paye pour ça. On a vu en Colombie-Britannique, ils ont fait beaucoup de changements au niveau de leur système de paiement pour les soins primaires. On doit vraiment valoriser le monde qui fait le travail parce que ça fait plusieurs années que c'est vraiment dur. On voit beaucoup de monde quitter leur carrière en santé parce qu'ils ne se sentent pas respectés. Le travail est vraiment difficile. Alors, on doit démontrer un respect pour le travail de soins parce que c'est un travail tellement important pour le Néo-Brunswickois. On doit le valoriser.
Ça doit passer par quoi? Est-ce qu'il faut payer les gens un peu plus cher?
Dans certains cas, oui. On a beaucoup de rôles dans le système de santé qui ne sont pas bien payés, certainement dans les foyers de soins avec les préposés et d'autres. Alors, je pense qu'on doit voir une augmentation de ces pays-là, absolument. Mm-hmm. Mais on doit aussi changer notre modèle parce que maintenant, notre modèle est basé sur les soins dans l'hôpital. Et vraiment, si on avait des soins primaires en communauté, là où le monde vit, avec les heures accessibles pour vous autres et votre famille, et après, l'opportunité d'avoir le soin à longue durée, on n'aurait pas le problème dans l'hôpital qu'on a maintenant.
L'un des fers de lance du gouvernement actuel, c'est de faire des économies. Il semblerait que les finances de la province aillent pas si mal que ça. Est-ce qu'il faut dépenser plus aujourd'hui? Et si oui, dans quel domaine?
Ben, notre investissement dans le système de santé à Nouveau-Brunswick est le plus bas du région et c'est beaucoup moins que le... c'est quoi, average?
La moyenne.
La moyenne, merci. C'est plus bas que la moyenne au Canada. C'est le plus bas dans le Canada atlantique. Alors, on n'investit pas dans notre système de santé comme la façon qu'il fait en Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve. Oui, je pense qu'on devrait investir dans les gens de Nouveau-Brunswick et leurs soins de santé. Alors, ça veut dire qu'on doit réduire nos dépenses dans des autres places et on doit chercher pour ces opportunités d'être plus efficace, d'arrêter de faire des choses qu'on fait depuis longtemps parce que si on n'a pas notre santé, ben qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense que c'est la responsabilité primaire pour le gouvernement de Nouveau-Brunswick.
On va sortir un tout petit peu de la santé. On sait que dernièrement, ici à Saint-Jean, on a perdu, d'ailleurs, c'est la province qui l'a perdu, le projet d'école française Don Bosco, qui devait s'installer au Market Square, qui finalement va s'installer à Halifax. Est-ce que si vous aviez été aux commandes, ça se serait passé différemment?
Ben peut-être. Je peux pas dire oui absolument parce que je sais qu'il y avait des enjeux avec le coût du projet, accès à construction. Je n'ai pas l'information, je pense, que le gouvernement a au niveau de les détails du contrat puis les incitatifs qui étaient là. Alors, je peux pas dire absolument ça serait différent parce que je n'ai pas toute l'information, mais c'était dommage de voir parce que c'était un beau projet pour Saint-Jean puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était excité d'avoir cette opportunité-là. Là, ici. C'est quelque chose qui attire les professionnels de soins de santé si elle a accès à une éducation comme celui-là, internationale. Alors, c'était un dommage et j'imagine notre équipe, on aime travailler d'une façon collaborative, avec de belles relations au niveau communautaire. Alors, on fait un travail ouvert, on fait un travail de partenariat. Je pense que ça peut faire de la différence dans des négociations comme ça, puis avec des organisations comme le lycée.
Il semble que le français, les écoles francophones soient aujourd'hui de toute façon pas une priorité du gouvernement actuel. On sait qu'ici, à Samuel de Champlain, par exemple, le nombre d'élèves a beaucoup augmenté ces dernières années. L'école déborde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? Qu'est-ce que vous feriez pour donner une chance de voir la situation évoluer?
Merci pour la question, parce que je pense qu'on parlait de système de santé, la responsabilité primaire, mais l'éducation est le deuxième, ou peut-être ça partage la première place, parce que l'éducation, ça, c'est où on commence. Mm-hmm. Et avoir accès à une éducation de qualité qui a les ressources qu'on a besoin pour que nos enfants peut se réaliser dans n'importe quelle langue, parce que ceci, c'est Nouveau-Brunswick. Alors, notre système d'éducation francophone devrait être fort, devrait avoir les ressources au niveau de leur infrastructure, au niveau de leurs enseignants, leurs ressources dans le système. Et on voit une manque, parce que on ne bâtisse pas des écoles vite assez. On manque de professionnels dans l'école. On manque de professionnels de santé mentale. On manque d'enseignants. Et encore, ce n'était pas une priorité pour ce gouvernement. C'est clair que ce gouvernement n'intéresse pas du tout au niveau francophone. C'est vraiment une distraction pour eux autres, l'immersion puis tout ça. C'est pas l'enjeu à Nouveau-Brunswick. On devrait investir que n'importe qui peut avoir accès à une éducation de qualité proche d'où il vit et dans la langue de leur choix. Alors, le système d'éducation francophone, on le voit ici, à Miramichi, Carrefour-Beausoleil, à Fredericton, École Sainte-Anne, au Centre communautaire Sainte-Anne, de même ici que Samuel de Champlain, sont complètement pleins, puis leur financement ne se rattrape pas à la réalité.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes en campagne?
Oui, absolument. On ne sait pas quand la prochaine élection va être. Alors, c'est toujours, à chaque journée, notre travail d'écouter et de mériter la confiance du monde, être là pour être authentique, pour être accessible et pour faire un travail qui cherche à améliorer la vie à tout le monde. Pas seulement les personnes qui regardent comme le premier ministre. On a besoin d'accueillir puis de travailler pour chaque Néo-Brunswickois, n'importe où il habite, n'importe quelle langue il parle, n'importe qui il aime, n'importe leur identité. Alors, oui, on fait ce travail à chaque jour et on attend la campagne électorale.
Merci, Suzanne Holt, d'être venue nous voir ce matin.
Hey, merci, Sébastien. Plaisir.
Madame Holt a grandi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où elle a été élue en 2023 à l'Assemblée législative. On reste sur la santé, mais traversons plusieurs provinces pour s'arrêter au Manitoba, où Ottawa vient d'annoncer une aide de 633 millions de dollars au gouvernement de la province. Cette enveloppe servira à soutenir les dépenses en santé du Manitoba. L'annonce en a été faite le 16 janvier par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse qu'il donnait au collège RRC Polytech du Manitoba. Monsieur Trudeau, qui honore la ratification de deux accords bilatéraux signés entre Ottawa et le gouvernement du premier ministre manitobain Wade Keneu. Fort de cette entente, Monsieur Keneu espère être en mesure de soutenir ses programmes de soins à domicile, de soins de proximité et de longue durée, destinés aux personnes âgées, et ainsi peut-être mieux financer les programmes Travailler ensemble et vieillir dans la dignité du Manitoba. Les précisions de Gaël Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
Le gouvernement du Canada octroie 434 millions de dollars pour soutenir le plan triennal du Manitoba afin d'améliorer les soins de santé. Le gouvernement fédéral ajoute 199 millions de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale « Vieillir dans la dignité ». Le ministre fédéral de la Santé, Marc Hollande, parle de cet accord.
Aujourd'hui, nous signons un nouveau accord qui permettra d'injecter plus de 633 millions de dollars dans le système de santé du Manitoba, qui vont embaucher certains médecins et développer les mesures pour attirer et retenir des travailleurs de la santé, réduire la congestion dans les salles d'urgence, améliorer les services de santé en français, permettre à des personnes âgées de continuer de vivre chez eux élargir les services de soins de santé mentale, améliorer la qualité de soins de longue durée et beaucoup des autres choses. Ensemble, c'est une étape essentielle pour notre système de santé.
Wapkenu a déclaré que les dollars fédéraux aideront le gouvernement néo-démocrate à respecter son engagement des campagnes électorales d'embaucher plus de 1 000 nouveaux professionnels de la santé et de réduire les temps d'attente pour les soins d'urgence et chirurgicaux.
Merci beaucoup au gouvernement fédéral. Ça, c'est une annonce merveilleuse pour la province du Manitoba. Nous embaucherons bien plus de médecins, d'infirmières, tout partout dans le Manitoba. Alors, je suis très, très content d'être ici aujourd'hui.
La province doit également produire chaque année un rapport public sur ce projet par rapport aux objectifs et aux initiatives, en plus de fournir des états financiers au gouvernement fédéral si elle souhaite maintenir les liquidités fédérales. En février 2023, le gouvernement fédéral avait déposé une offre aux provinces et aux territoires afin d'augmenter les transferts en santé, soit des 196 milliards de dollars sur une période de 10 ans, afin d'améliorer et de répondre aux pressions immédiates sur les systèmes de santé. Winnipeg, Gaël Poyo pour IGL.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
On est de retour dans les maritimes où nous attend Maxime Gauthier qui nous présente cette semaine le second et dernier volet de son dossier sur la violence au hockey et sur celle subie en particulier par les arbitres des ligues mineures. Pénurie d'officiels, favoritisme, partisans en colère, intimidation, vous voyez le topo, autant de cercles vicieux qui minent les équipes et l'ambiance de la Ligue de hockey Vallée-Appalaches du Nouveau-Brunswick. La situation est si grave que certains arbitres préfèrent accrocher leur sifflet plutôt que d'être indéfiniment la cible d'injures. L'intimidation provoquerait le départ de plusieurs d'entre eux et ceux qui restent sont sur le qui-vive. Les partisans les accusent de favoritisme et des intimides à répétition. 50 parties de nouveaux seniors ont été disputées la saison dernière. Une trentaine d'arbitres sont montés sur la glace avec les joueurs et les partisans. Certains arbitres sont eux-mêmes d'anciens joueurs qui ont évolué au sein de l'équipe qu'ils officient. Des situations souvent impossibles à éviter, en partie en raison de la pénurie d'arbitres qui attisent parfois la colère des partisans qui ne croient plus en leur neutralité. Mais cette colère explique aussi pourquoi tant d'arbitres décident de jeter l'éponge. Les partisans seraient-ils responsables des situations qu'ils dénoncent? Dans ce second reportage portant sur l'intimidation envers les arbitres, Maxime Gauthier aborde la question de la pénurie d'arbitres dans la Ligue de hockey Vallée-Appalaches avec entre autres Jack Lebel et le président de la Ligue, Alexis Ouellette. Il est aussi allé à la rencontre de Denis Couturier, président des Dynamos, pour lui parler du climat qui règne à l'aréna de Kedgwick, le domicile de l'équipe des Dynamos. Cette aréna est considérée par plusieurs comme abritant un environnement hostile, tant pour les arbitres que pour les joueurs des équipes adverses. Voici d'abord l'arbitre Jack Lebel.
Un joueur qui m'a ramassé par en arrière m'a tiré le chandail assez long pour tout déchirer mon chandail. Le spectateur descend en bas, il me donne une claque par la tête. Tu peux avoir des gens qui décident de t'attendre à l'extérieur.
Jack Lebel, officiel dans les arénas depuis 50 ans, il est le responsable de 84 arbitres au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, un nombre qui diminue année après année.
On essaye d'accommoder tout le monde, puis les garder le plus longtemps possible, mais à un moment donné, ça va frapper un mur.
La majorité des arbitres au nord-ouest de la province est vieillissante. Jack Lebel croit que la difficulté à gérer la pression à l'égard des critiques est une des raisons pourquoi les jeunes officiels quittent rapidement le métier.
Les gens comprennent pas que c'est une troisième équipe. C'est une troisième équipe sur la patinoire qui essaie de faire respecter les règlements des deux côtés. Le hockey, c'est un jeu qui est rapide. Tu as une fraction de seconde pour prendre une décision. As-tu pris la bonne ou t'as pas pris la bonne? Tu as les gens qui voient juste un côté, eux autres vont t'embarquer. Eux autres vont te mordre. Fait que celui qui commence à arbitrer ou qui arbitre, puis il se fait critiquer toutes les fois qu'il prend une décision, et lui, il ferme les livres.
Spécialiste en psychologie sportive, Claude Beaulieu souligne que l'accumulation de diverses formes de violence pousse les arbitres à délaisser leur travail.
Je prends souvent l'exemple du supplice de la goutte d'eau, là, donc une méthode de torture qu'on utilisait, je pense, à la Deuxième Guerre mondiale, où là, on laissait une goutte tomber dans le front d'une personne à répétition. La première goutte, ça fait pas trop de dommages, mais disons, plus on a cette répétition-là, plus ça use, plus ça devient difficile ou insupportable. En termes de rétention, il y a plusieurs arbitres qui vont se retrouver à lâcher, disons, cette passion-là ou ce sport-là, parce que soit qu'ils vont avoir été victimes de vraiment physiquement de violence, ou qu'ils vont avoir accumulé au fil du temps un certain niveau, disons, de violence verbale. Puis là, ils se disent OK, ben là, moi j'en ai assez, j'accroche mon sifflet, là, tu sais.
Dans l'émission Sportech sur les ondes de Frontières FM à Edmundston, l'animateur Yvon Dubé a affirmé en décembre dernier que certains arbitres de la Ligue de hockey Vallée-Appalaches refusent apparemment d'aller arbitrer au domicile des Dynamos de Kedgwick. Le président de la Ligue, Alexis Ouellet, n'a jamais eu vent d'une telle situation.
Je crois pas qu'on a de la difficulté nécessairement à avoir des arbitres à Kedgwick. Si oui, ça m'a pas été mentionné par les arbitres étant donné que ça pas l'air d'un problème.
Le collaborateur à l'émission Sportech, Yves Pelletier, a d'ailleurs renchéri à Yvon Dubé en qualifiant l'aréna de Kedgwick comme étant un environnement hostile où les arbitres se font intimider. L'ancien entraîneur-chef des Castors de Saint-Quentin, Jason Leblanc, est plutôt en accord avec ses propos.
Pas de sécurité, la boisson partout, il y a beaucoup de monde qui voit ça, puis ils sont presque à la brosse, là, ça fait que c'est pas facile pour les arbitres. Je sais, je vais voir des games là souvent.
Dans la Ligue senior Vallée-Appalaches, le comportement parfois agressif des partisans envers les arbitres, mais aussi envers les joueurs adverses, provoque des incidents. Ce fut le cas le mois dernier au Palais des loisirs de Kedgwick lors d'une partie opposant les Dynamos aux Draveurs.
Je n'irai pas dans les détails, comme je dis, mais supposément que le garde de sécurité essayait de contrôler les gens près de la sortie des joueurs adverses, puis il aurait mangé un coup de hockey d'un joueur adverse sur un doigt à cause que le joueur adverse a juste frappé comme dans la vitre. Sa main était proche, là. Ça fait que je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, si tu veux. C'est vraiment là, ça arrive à Kedgwick, mais je veux dire, ça peut arriver partout. Là. L'année passée, justement, c'est un garde de sécurité du Thunder River Valley qui frappe quelqu'un au visage. Je pense le soigneur des Draveurs. Là. Ça fait que c'est pas. Ça arrive à chaque année, mais cette année, c'était Kedgwick que ça arrive. Je te dirais pas que c'est normal et c'est acceptable, mais je te dirais juste que c'est des choses qui arrivent. Nous, on a parlé aux équipes. Les équipes ont dit que c'est sous contrôle présentement. Ça fait qu'on se fie à la bonne foi des équipes. La façon que l'aréna est conçue à Kedgwick, les officiels doivent quitter la patinoire et passer à travers la foule. On a parlé avec l'équipe. L'équipe est en train, justement, d'essayer de faire un périmètre de sécurité un petit peu plus large pour les officiels pour quitter la patinoire, mais aussi pour l'équipe adverse pour éviter qu'ils se fassent lancer des choses dessus. Encore là, c'est pas quelque chose qu'on aurait dans les autres arénas de la façon qu'ils sont faits. Mais à Kedgwick, on est doué à ce que ce soit peut-être potentiellement plus facile de faire des gestes comme ça.
L'arbitre d'expérience Jack Lebel ainsi que le président des Dynamos de Kedgwick, Denis Couturier, affirme qu'il n'y a pas plus de violence et d'intimidation à Kedgwick que dans d'autres arénas.
Non, ça peut arriver dans n'importe quelle aréna. Je parle de petite aréna comme pendant que les ambassadeurs jouaient à Saint-Jacques. C'est une petite aréna. Les spectateurs sont proches de la glace. Ça a lancé en masse des bouteilles, des lighters, nomme-les. Ils t'attendent à la sortie parce qu'il faut que tu traverses à travers deux autres pour te rendre au vestiaire. Là. Ils s'en vont pas, là, ils attendent. Là.
On est beaucoup impliqués dans le hockey, puis on veut que les Dynamos gagnent. Puis... Mais il arrive des situations que ça vient qu'on perd la tête un petit peu, là, parce que des fois, on chiale après les arbitres. Il n'y a pas un qui est joué. Là. Écoute, on dit qu'il est joué, là, mais je vois partout, ça fait 14 ans, puis c'est pareil partout. Là.
Denis Couturier est bien connu dans le monde du sport au nord-ouest de la province, particulièrement pour son implication au niveau du développement du sport dans la région des Hauts-Plateaux. Président des Dynamos de Kedgwick depuis 14 ans, il est aussi reconnu pour son intensité dans les estrades durant les parties que dispute son équipe.
Il n'est pas facile, Denis n'est pas facile à gérer parce que ça peut être la bonté du monde, mais aussitôt que son équipe est impliquée, il change de chapeau complètement. Il a de la misère à gérer ses émotions.
Je connais Bucket, c'est un autre gagnant. Il ferait tout pour gagner, puis il se laisse emmener dans des places que vraiment il ne devrait pas être. Là.
Quand on s'occupe d'une équipe de hockey depuis des années et des années, c'est certain qu'on prend l'équipe à cœur, puis ça, c'est tout à son crédit. C'est certain qu'il y a eu des incidents dans le passé où on a eu des plaintes contre Denis. Écoute, c'est comme que je dis, là, si que le gérant de l'équipe de Saint-Basile crie après les officiels au centre d'Andeuil, on l'entendra pas. Tandis qu'à Kedwick, ben, on s'entend que quand t'as des estrades, tu peux quasiment toucher le centre de la glace. Ça fait que c'est certain que c'est plus facile d'être vocal là.
Denis Couturier ne s'en cache pas. Il est bien conscient de sa passion pour son équipe et qu'il lui arrive parfois de s'emballer lors des parties.
L'année passée, on était en finale contre Saint-Basile. L'arbitre en chef, c'est l'ancien gardien de but de Saint-Basile qui a gagné un ou deux championnats avec cette équipe-là. À un moment donné, là, tu viens de Saint-Basile, t'es chum de Saint-Basile, t'as joué pour cette équipe-là, mais veux pas, t'as un parti pris. Là. Fais-moi arbitrer une game des Dynamos que j'ai été président 14 ans de temps. Fais-moi l'arbitrer pour m'assurer que je vais avoir un parti pris pour mon équipe. Fait que c'est des affaires de même qui viennent, que la population vienne arrager. Tu sais, comme un autre exemple, à Saint-Léonard, 2 ans passés, on était assurés de pogner Saint-Léonard en série. L'arbitre en chef suspend un de mes joueurs, 6 games. Après la partie, j'avais affaire au coach de Saint-Léonard. J'arrive dans la chambre, qui est là? L'arbitre en chef. J'ai fait une plainte à la Ligue, fait une plainte à Hockey Nouveau-Brunswick au niveau des arbitres. Il n'était plus supposé d'arbiter nos games pendant la série. On arrive à 6e match à Saint-Léonard. Aucun compte rendu de Hockey Nouveau-Brunswick. Aucun compte rendu de la Ligue. Qu'est-ce qui arbitre en chef? Le même arbitre sur qui j'avais mis une plainte. Encore là, mes joueurs voient ça, c'est enrageant. Puis là, ils disent on perd la tête. Mais c'est un peu là, un peu que l'arbitre en chef aurait eu, lui qui s'occupe des arbitres, aurait pensé que j'avais ma plainte dessus. C'était la seule game que je jouais dans la Ligue, puis c'est lui qui arbitre. Drette là, ça part pas bien. Là.
Denis Couturier qui dénonce un favoritisme des arbitres pour certaines équipes et c'est ce qui déclencherait la colère des partisans. On termine à nouveau avec Alexis Ouellet et Jack Lebel.
Il n'y en a pas d'arbitres. C'est souvent les mêmes officiels qui arbitrent les parties. Puis là, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que s'il y a une partie en particulier où on a des problèmes avec un joueur ou un officiel spécifique, bien, c'est certain que la game d'après, je ne dis pas que les arbitres veulent se venger, mais ayant été arbitre, là, on n'oublie pas ça. Là. C'est certain qu'on va avoir la mèche un petit peu plus courte envers certains individus, puis c'est normal.
On n'est pas là pour lui faire du mal. On est là pour que le hockey peut continuer. On n'a pas de préférence. Les gens pensent qu'on a une préférence, eux autres. Oui, ils ont un parti pris, ils ont une équipe locale. Mais il faut comprendre que c'est quand même un match de hockey. Là. Tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Là. Le dicton le dit bien. Pas d'arbitre, pas de game de hockey.
Merci à Maxime Gauthier. Voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Nos journalistes Sébastien Caron, Maxime Gauthier et Gaël Mpoyo. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Merci de nous être fidèles. Des questions, suggestions, commentaires, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca. Restez à l'écoute de l'émission qui nous suit. À la semaine prochaine. Ciao. Qu'une foule de reportages vous attendent sur le site de fréquenceinfo.ca, comme celui de Daniel Biru qui couvre pour nous l'actualité des territoires du Nord-Ouest et qui s'est intéressé aux ateliers de littératie financière offerts aux nouveaux arrivants des territoires du Nord-Ouest. Marie Hillès a de son côté rencontré à Ottawa l'artiste muraliste, graffiteur et musicien hip-hop Jimmy Baptiste. Ah oui, vous aimez le hockey? Ben Maxime Jaudouin vous a préparé un petit quelque chose sur le premier tournoi de hockey de bottines ou de rue qui s'est tenu à Sacré-Cœur sur la côte nord du Québec. Et Jocelyn Hébert a quant à lui rencontré Anne-Marie Dion-Côté, professeur de biologie à l'Université de Moncton, pour analyser les conséquences de la fuite de données dont a été victime l'entreprise 23andMe, l'entreprise qui garde en réserve, entre autres, les profils génétiques de 7 millions de personnes. Plus de peur que de mal, paraît-il. Enfin, tout ça et 70 reportages de plus chaque semaine sur fréquenceinfo.ca. Ne vous gênez pas.